Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Cette adresse de Montaigne, à la Boétie, Alain Juppé aurait pu la faire sienne dans son récent ouvrage intitulé « Mon Chirac, une amitié singulière ». Entre l'ancien Premier ministre, désormais membre du Conseil constitutionnel, et l'ancien président de la République, décédé le 26 septembre 2019 à 86 ans, la trahison ne fut jamais de mise dans un univers où elle est souvent la règle.
Celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé.
Jacques Chirac, Alain Juppé, duo politique hors norme, un double épisode de Code Source avec Charles de Saint-Sauveur et Henri Vernet, journaliste au service politique du Parisien. Il y a quelques jours, Alain Juppé publie « Mon Chirac, une amitié singulière », un livre qui revient sur 40 ans d'une vie politique qui lie les deux hommes. Charles de Saint-Sauveur, Henri Vernet, à cette occasion, vous le rencontrez.
Alors la première impression qu'il nous fait, c'est d'être vraiment très détendu, très souriant. On se souvient qu'on l'avait laissé après la primaire de 2016, très marqué, vraiment. Et là, on le retrouve svelte, souriant, bronzé, masqué évidemment. Hein. Il nous emmène au Conseil constitutionnel à son bureau, qui est d'ailleurs, détail cocasse, celui qu'occupait Lionel Jospin juste avant lui, avant son arrivée au Conseil constitutionnel en février-mars 2019. Et ce qui est amusant, clin d'œil de l'histoire, c'est Lionel Jospin qui lui avait succédé à Matignon en 1997.
Vous sentez Alain Juppé encore marqué par la mort de Jacques Chirac ?
On sent cette émotion, d'autant plus que, comme il le raconte d'ailleurs dans le livre, dès la préface, quelques jours avant la vraie fin de Jacques Chirac, parce qu'on se souvient, c'est quand même un déclin qui a duré des années et des années, quelques jours avant, Alain Juppé est convié par la fille de Chirac, par Claude Chirac, à lui faire ses adieux, à venir en quelque sorte lui rendre visite, c'est un grand mot, parce que quand Alain Juppé arrive, rue de Tournon, Chirac est déjà tellement affaibli que c'est à peine s'il ouvre l'œil. Et cette émotion-là, il l'écrit dans le livre. Et quand il nous en a parlé au Conseil constitutionnel, on sentait qu'elle était bien présente encore un an après.
On va revenir avec vous sur cette amitié et cette fidélité rare en politique, où les trahisons sont fréquentes. Alain Juppé a aujourd'hui 75 ans. Et il se souvient toujours de sa première rencontre avec Jacques Chirac.
Oui, bien sûr. Et c'est normal d'ailleurs, parce que cette première rencontre, elle intervient en 1976. À l'époque, Jacques Chirac est Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Juppé, lui, c'est un jeune inspecteur des finances. Hein. C'est un, comment dire, non pas un Rastignac, mais un provincial qui est monté à Paris, qui a fait l'ENA, donc qui est sorti dans ce corps prestigieux donc de l'inspection des finances. C'est un techno. Il ne connaît pas le milieu politique. Et là, d'un seul coup, il se retrouve face à cet animal politique qui est quand même déjà Jacques Chirac. Il est impressionné par la carrure, la prestance, la présence de Chirac et également très enthousiasmé à l'idée de rentrer dans le grand cirque.
Jacques Chirac va le prendre sous son aile.
Quand il commence à travailler avec lui à Matignon, où il est à l'époque chargé d'écrire les discours du Premier ministre Chirac, Chirac en est presque au bout. Hein. Quelques mois plus tard, il démissionnera. D'ailleurs, ce qui est amusant, Juppé l'apprendra par le journal. On est en 76, il est parti en vacances tranquillement, pensant qu'il retrouvera ce bureau à la rentrée après les vacances. Eh bien non, il apprend que Chirac a démissionné avec fracas. Nous sommes fin août 76. Il fera encore du cabinet, hein, comme les jeunes énarques le font notamment encore à cette époque. Sauf que Chirac, très vite, va l'appeler à la mairie de Paris, puisque donc en 77, Chirac conquiert Paris, et très vite, il l'appellera Alain Juppé dans son équipe. Juppé est l'un des principaux espoirs, des principaux poulains, pourrait-on dire, de l'écurie Chirac.
Chirac le prend tellement sous son aile d'ailleurs que fin 78, il postule en tant que jeune inspecteur des finances à un poste assez prestigieux auprès à la direction du Crédit National. Donc il est reçu à l'Élysée par un conseiller de Valéry Giscard d'Estaing, le président, qui lui dit est-ce que vous êtes toujours fidèle à Jacques Chirac ? Il répond oui. Il dit ce poste n'est pas pour vous. Résultat, comme le dit Juppé dans son livre, il rentre à la maison auprès de Jacques Chirac et c'est là qu'il va vraiment construire son parcours à la mairie de Paris.
Les premières expériences électorales d'Alain Juppé sont des échecs. Il s'engage au service de Jacques Chirac, un peu plus encore.
Oui, il tente une première expérience, tout simplement aux élections législatives de 78. On est en plein programme commun de la gauche. François Mitterrand est déjà là et peut-être que l'alternance pourrait se jouer dès 78. Donc ce sont des élections cruciales. Alain Juppé fait partie de ces jeunes pousses repérées au sein du tout nouveau RPR, puisque Chirac a créé le RPR moins de deux ans auparavant. Juppé est envoyé dans son sud-ouest natal, dans son fief, et là, c'est Juppé dans ses pires défauts, j'allais dire. C'est le jeune techno qui arrive, qui sait pas trop y faire, à tâter le cul des vaches, comme le lui avait pourtant recommandé Chirac. Il a pas encore cette fibre politique. Il raconte d'ailleurs qu'il fait une campagne difficile, donc il parcourt des kilomètres, et surtout, alors qu'il est donc tout jeune, rappelons-le, il a 33, 34 ans, Chirac vient le soutenir à deux reprises, il vient faire des meetings et Juppé a l'honnêteté d'ailleurs de reconnaître que dès que Jacques Chirac, le grand, paraît, la moindre réunion dans un préau d'école d'une petite commune, ça devient presque une réplique de Pantin, des 100 000 militants qui applaudissaient comme des fous Chirac à Pantin en 76 pour la création du RPR.
Et il le soutient contre vents et marées, même quand il n'est pas d'accord.
On peut penser en effet, dans cette époque, à un Chirac qui est assez dur, parce que quand il crée le RPR, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine de guerre des gaullistes contre Giscard. Il faut faire battre le centriste Giscard. Ils ont tous en ligne de mire la présidentielle de 1981. Tous les coups sont permis. Et donc, dans ses discours, il est assez jusqu'au boutiste. Et Juppé, c'est vrai que lui, c'est un modéré. Il a quand même plus de recul sur les choses, et notamment quelque chose qui va beaucoup le froisser, c'est le fameux appel de Cochin, discours enflammé que produira Jacques Chirac en vue des élections européennes qui va suivre, où il dénoncera, alors sans le dire nommément, il le dénoncera Giscard comme le chantre du parti de l'étranger. Le choc est énorme. Et ça, Juppé, il est froissé par cela. Il sait bien qu'en réalité, ceux qui sont à la manœuvre, c'est le duo infernal, le couple Juillet-Garot, Marie-France Garot-Pierre Juillet, qui sont les véritables éminences grises, les cardinaux noirs en réalité, de l'époque Chirac. Et en fait, il racontera à Juppé, et puis il l'écrira, je crois, aussi dans ses mémoires, qu'il s'est un petit peu laissé manœuvrer, qu'il a dit des choses qui dépassaient sa pensée.
À partir de 1981 et jusqu'au début des années 1990, jusqu'à la trahison, entre guillemets, c'est Édouard Balladur qui va vraiment jouer ce rôle. D'ailleurs, Chirac l'appelle à tout bout de chance, qui a le don d'agacer Juppé. On le voit bien entre les lignes. Il le redit, effectivement, Balladur est le consigliere permanent de Jacques Chirac.
Les premières expériences électorales d'Alain Juppé sont des flops. Il s'engage dans l'ombre de Jacques Chirac.
Juppé a pris beaucoup d'importance dans le dispositif Chirac, tant à la mairie de Paris, il est vraiment le chargé des finances, de la vie économique de la ville, mais aussi dans le candidat Chirac à la présidentielle de 81. Néanmoins, en 1983, quand il se lance dans la bataille, cette fois à Paris, après avoir perdu dans les Landes, il est inconnu du grand public et c'est amusant parce que les affiches de campagne à l'époque montrent Juppé à côté de Chirac, mais il y a trois fois la photo de Juppé. Il le dit lui-même, personne ne connaissait ma bobine, il fallait que je la montre trois fois. Celle de Chirac, par contre, est absolument incontournable. Et d'ailleurs, en 1983, Chirac réalise le Grand Chelem à Paris avec une victoire de Juppé dans le 18e, qui est à l'époque un fief. Il a battu dans le 18e une liste qui était composée de Jospin, de Claude Estier, qui était un personnage important du Parti Socialiste à l'époque, de Bertrand Delanoë et de Daniel Vaillant, qui sera le futur maire du 18e. Donc voilà, il n'est pas peu fier quand même de cette première bataille.
À la mairie de Paris, Alain Juppé continue de faire ses preuves auprès de son mentor.
Disons qu'il se retrouve à un rôle qui est assez incontournable. Quand vous vous occupez des finances, ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous connaissez, j'allais dire, tous les rouages de la capitale, mais justement les rouages politiques. Il a cette habileté de gérer tout ce petit monde où on se tire quand même très vite dans les pattes, hein, entre maire d'arrondissement, chacun voulant cultiver son précaré, ses petits avantages. C'est quand même l'étoffe de l'homme d'État. Et ce qu'il fait à Paris, on retrouve cette marque, parce que le 18e, l'Est de Paris de manière générale, était très déshérité par rapport à l'Ouest dans ces années-là. Et donc Juppé fait partie de ceux qui s'attachent à relever le 18e. Ce sera vrai également dans les arrondissements de l'Est parisien, 13e, 11e, 19e, qui ont été conquis également par la droite, puisque c'était le Grand Chelem. Mais le fait est que entre ses activités au sein du parti, donc au RPR, et puis donc dans son arrondissement et plus généralement à la mairie de Paris, c'est vrai qu'il devient vraiment l'homme incontournable au sein du RPR, au sommet auprès de Chirac. Et c'est dans ces années-là que Chirac sortira la fameuse formule.
Celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé.
Formule qui certes flattera Juppé, mais en tout cas cette formule elle a blessé beaucoup d'autres, et notamment elle va blesser un personnage qui devient central dans ces années-là, c'est Philippe Séguin.
Il y a toujours un petit peu ce techno brillant, etc., qui s'impose auprès de Chirac et qui prend de plus en plus d'importance au détriment de certaines figures du parti qui aimeraient bien qu'il en ait un peu moins.
Ce qui lui ouvre tout de même les portes du gouvernement.
Là, on parle donc du gouvernement, du premier gouvernement de cohabitation, hein, 1986. Chirac devient Premier ministre. Et il le nomme au budget, où il sera d'ailleurs sous la tutelle d'Édouard Balladur. C'est quelqu'un qui a une grande emprise dans ces années 80, donc là nous sommes entre 86 et 88, qui est donc le maître de l'économie, des finances. Juppé en prend un peu ombrage de ce côté omniprésent de Balladur, qui laisse peu de champ à son ministre du budget. Il s'en ouvre à Chirac, donc qui est à Matignon, en lui demandant de changer de ministère. Il se verrait bien à l'éducation. Et là, Chirac lui dit « Bon, écoutez, pourquoi pas ?» Je dis « Écoutez, pourquoi pas ?» parce que les deux hommes se vouvoient et ils se vouvoieront toujours, jusqu'au bout. Et il lui dit « Mais enfin, vous feriez quand même une connerie parce que le budget, c'est un ministère où on en apprend énormément. C'est un ministère stratégique. Donc, je vous conseille de rester, ce que fera Juppé et il ne le regrettera pas. »
Il s'agira du 22e président depuis Louis-Napoléon Bonaparte.
Le 7 mai 1995, Jacques Chirac devient président de la République face à Lionel Jospin, 52% des suffrages.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui.
Il nomme Alain Juppé comme Premier ministre, ça n'a fait aucun doute.
Ça se joue entre deux hommes, entre Philippe Séguin et Alain Juppé, le meilleur d'entre nous probablement.
Il sait très bien que s'il met Philippe Séguin à Matignon, très vite ça va clasher entre les deux hommes. On serait vite dans une cohabitation un peu à la Rocard Mitterrand, hein, que dans un vrai tandem exécutif complice comme le seront Chirac et Juppé.
Et en même temps, Juppé, sans avoir la moindre information, en tout cas c'est ce qu'il écrit dans le livre, est persuadé que ça sera lui. Quand bien même Chirac ne lui en a absolument rien dit. Par contre, il s'est pas préparé parce qu'il était accaparé par le ministère des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, il le dit, les premiers jours, il va un peu patauger dans la nomination du gouvernement comme dans sa déclaration de politique générale. Il n'était pas vraiment prêt.
Ce poste de Premier ministre le force à changer son image, hein, avec des cours de communication.
Effectivement, il est un peu coincé, il y a un problème d'image. Juppé, ce n'est pas vraiment un homme de communication, hein, ça il l'a prouvé. Et il se méfie beaucoup de tous ses conseillers comme ça qui naviguent autour du président.
C'est amusant d'ailleurs que Chirac, il voit que son Premier ministre n'est pas assez rond, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Hein, il lui dira toujours, il dira y compris à la mère d'Alain Juppé, il faut qu'Alain mange plus. Donc Chirac lui-même, il sait, bon c'est pas sa tasse de thé non plus la com, hein, mais il sait ce que ça peut apporter. Donc c'est vrai qu'il donne ces conseils-là à son Premier ministre.
Et d'ailleurs, il va mettre dans les pattes de Juppé Jacques Pihan, qui avait été le conseiller en communication de François Mitterrand, et il le dit, tous ses conseils avaient le don de l'horripiler, parce qu'il savait que c'était vrai.
Les deux hommes sont au sommet, mais rapidement, les décisions du nouveau couple exécutif sont contestées jusque dans la rue.
C'est la fameuse histoire des grèves de décembre 1995. Alors, il faut savoir que Juppé commence son mandat à Matignon avec une forte popularité, mais qui va chuter très très vite. Au départ, ça s'engageait plutôt bien. C'est-à-dire que Juppé présente une réforme de l'assurance maladie, de la sécurité sociale. Il a l'aval des principaux syndicats, notamment la CFDT de Nicole Notta. Et il a le malheur, il le reconnaîtra lui-même après, de parler aussi des régimes spéciaux des retraites. Or, ça lui avait été fortement déconseillé par certains syndicalistes et aussi par Jacques Chirac, qui savait que le terrain politique n'était pas encore déminé. Et là, bon, voilà, Juppé va faire une sortie maladroite qui va déclencher réellement les grèves de 1995.
L'addition des corporatismes et des oligopolismes qui existent et qui se manifesteront, je le sais, ne saurait arrêter notre élan. Il faut le faire, j'en ai l'intime conviction. Il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble.
Défiler place de la Bastille, ça donne des idées aux manifestants.
Vous arrêterez quand la grève ?
Quand l'autre il arrêtera ses conneries, nous on arrêtera les nôtres.
Une grève très dure.
Oui, parce qu'elle va être longue, elle va paralyser le pays, elle va vraiment cristalliser le ressentiment de toute la population contre ce Premier ministre qui menace les retraites.
Les leaders ont menacé de nouvelles manifestations si le Premier ministre ne négocie pas rapidement.
Là, vraiment, Juppé, dans cette affaire des grandes grèves de 95, devient la figure honnie, c'est-à-dire que dans les manifestations, son effigie est brûlée, il en prend plein la figure, et notamment parce qu'il incarne en fait cette espèce de raideur du pouvoir, ce pouvoir technocratique. Là, il y a ce fameux malentendu avec la fracture sociale qu'avait défendu Chirac pendant sa campagne, alors que lui incarne le tournant de la rigueur, un tournant de la rigueur qui ne disait pas son nom dès le début du quinquennat et qui a fini par prendre corps avec cette affaire de l'assurance maladie et surtout les régimes spéciaux des retraites.
Contre sa volonté, Jacques Chirac va peu à peu lâcher son Premier ministre.
Ce qui se passe, c'est que nous sommes donc en 95, c'est-à-dire après cette campagne, cette guerre fratricide majeure à droite entre Balladur et Jacques Chirac. Donc il en reste des traces. Ça veut dire que la famille de droite, la famille gaulliste du RPR, mais au-delà des alliés, reste très divisée. Donc autant dire qu'Alain Juppé, il n'a pas le soutien absolu, loin de là, de la majorité politique. Évidemment, si l'on y ajoute ce qui est bien naturel, le rôle de l'opposition, ça fait que politiquement tout ça devient intenable, mais surtout que l'opinion en a assez. L'opinion a bien montré, les sondages sont là, ce soutien très majoritaire aux grévistes. Alors, il y a du gâchis là-dedans parce que toute la réforme n'était pas mauvaise, hein. Il y avait vraiment des éléments d'ailleurs qui existent encore, hein, qui sont passés. Mais c'est vraiment donc sur cette idée de s'attaquer aux régimes spéciaux de retraite et donc à ce système de manière un peu générale qu'il échouera. Donc la cristallisation est devenue tellement forte, le soutien politique n'étant pas acquis à Alain Juppé, il a compris que, en gros, la pression est trop forte et donc il finira par lâcher du lest.
Comment Alain Juppé vit la suite du mandat de Jacques Chirac ?
Un petit peu comme un mort politique en sursis. Après les grandes grèves de 95, bon, il gère évidemment les affaires courantes, il continue à bénéficier de la confiance de Jacques Chirac, hein, qui le dira d'ailleurs dans ses mémoires. Néanmoins, il a quand même beaucoup, beaucoup moins d'emprise sur les choses. Son ardeur réformatrice en a pris un sacré coup. Et puis à la fin, ce sont les électeurs finalement qui vont décider au terme d'une dissolution assez étrange.
Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Qui va être fatal à Alain Juppé, il quitte Matignon en juin.
Il met d'ailleurs son poste en jeu lui-même parce qu'il sent que la campagne, l'élection est tellement mal barrée. D'abord, les Français n'ont absolument pas compris à quoi sert cette dissolution. Jacques Chirac, dans sa présentation lui-même, était extrêmement berlificoté. Il a parlé de la nécessité de préparer le pays aux critères de Maastricht pour pouvoir faire entrer la France dans l'euro. Mais attendez, là, c'est stratosphérique pour la majorité de l'opinion. Donc, on ne comprend pas pourquoi il dissout. Tout cela semble une manœuvre politicienne. Tout cela fait que, face au fiasco, au désastre qui s'annonce dans les semaines précédant le scrutin, Alain Juppé comprend qu'il n'y a plus qu'un seul ressort qui peut-être pourrait permettre de sauver les meubles, c'est que lui mette sa tête en jeu. Et donc, il dit bien, il prévient à l'avance que de toute façon, quel que soit le résultat de ces législatives, eh bien, il ne sera plus le Premier ministre. Et Jacques Chirac est bien forcé, est presque soulagé d'accepter cet état de fait.
Merci à Charles de Saint-Sauveur et Henri Vernet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir, du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botterel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.